s'il est à zéro ou presque zéro. Le filtre est très doux et ça correspond à une atténuation progressive des fréquences. Dans les chaînes IFI, dans les dispositifs de correction sonore subtile, on a des pentes douces de filtres comme ça. Si j'augmente l'indice de qualité, la principale conséquence est que la courbe ici est plus raide. Le filtre devient plus spécifique. Les fréquences dans l'aigu s'étalent moins. Elles sont plus, ça coupe plus à la fréquence de coupure. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. On veut un filtre plus raide, de sorte qu'il passe moins de fréquences au-delà de ça. Par exemple, les filtres numériques qui sont en sortie des convertisseurs numériques audio sur un lecteur de DVD, par exemple, sont des filtres extrêmement raides parce qu'on sait, vu le processus d'enregistrement, qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule fréquence au-delà de 22 050 Hz. Donc, il y a un filtre qu'on appelle un mur de briques et qui ne laisse rien passer au-delà de cette fréquence-là, parce que si on laissait passer des fréquences au-delà de cette valeur-là, pour des raisons de traitement de signal, je peux vous le dire, mais on n'a pas vraiment le temps, il y aurait des parasites dans le son. Et donc, pour éviter ça, on met un filtre super raide. Mais les filtres raides, surtout en analogique, et ça a complètement marqué l'histoire des synthétiseurs, les filtres raides, avant la fréquence de coupure, développent une bosse. Regardez la bosse qui est là. Vous la voyez, oui. Si la fréquence de coupure est faible, il n'y a presque pas de bosse. Si la fréquence de coupure est forte, ça crée une bosse. Et cette bosse crée une sorte de sifflement ou de résonance dans le son qui peut être utile ou pas. Et c'est la caractéristique principale qui distingue ces filtres-là, qui sont des outils à travailler la matière sonore de manière créative, du filtre utilitaire qui doit être discret. Dans les synthétiseurs, on pousse la résonance ou l'indice de qualité, on le pousse souvent comme ça pour que ça siffle, pour donner un son un peu électronique, et beaucoup des effets électroniques qui vous sont familiers viennent des filtres de ce genre-là avec une résonance assez poussée. Donc, jouer avec le paramètre de résonance. Quand je chante, je crée en fait une résonance avec ma langue et mon palais dans le son, exactement du même type. Et je vais sélectionner la bosse et la placer par rapport à la fondamentale pour avoir la couleur que je veux. Les filtres électroniques font de même. Que ce soit dans la version passe-bas, qui est la version la plus courante dans les synthétiseurs analogiques et dans la plupart des échantillonneurs aujourd'hui, quand dans un échantillonneur, soit un appareil externe genre MPC60 ou appareil numérique à un logiciel genre, qu'est-ce qui est très courant en ce moment, Contact ou les autres gros logiciels d'échantillonnage, on trouve toujours un filtre dans la chaîne, et ce sont des filtres modulables comme ça, qui viennent, lorsqu'on désire, colorer le son. Donc jouer avec les réglages des filtres, la fréquence de coupure et l'indice de qualité, c'est vraiment, ou la résonance. C'est les deux réglages qui vous permettent d'aller plus loin. C'est aussi un moyen économique de transformer un filtre passe-bas en filtre résonant. C'est pour ça qu'on le faisait dans les vieux synthétiseurs analogiques, ça évitait de mettre trois filtres. Parce que les filtres, ça coûtait cher en composantes électroniques et on voulait diminuer les coûts de fabrication. En numérique, ça, c'est plus un problème, mais à l'époque, ça avait ce sens-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui. C'est des filtres, l'étape de mixage, justement, j'allais vous montrer ça. L'étape de mixage ont des filtres de genre là. Ça, c'est ce qu'on a fait en filtre shelving, filtre à plateau. Celui-là amplifie ou diminue une certaine zone de fréquence. Et c'est ce qu'on trouve. Ça, c'est un filtre grave de chaîne IFI ou de console de mixage. Ça, c'est un low shelf. Et en général, il est fixé à 100 Hz, la fréquence de coupure. Donc, je vais le mettre. Comme ça. Et selon qu'on va dans le plus, on amplifie le grave, ou dans le moins, au niveau du gain. Si j'amplifie le grave, et là, je diminue. Vous voyez? High shelf, c'est la même chose, version passe haut. Et ça, c'est le filtre aigu. Typiquement, dans une chaîne IFI, il est à 2000 ou à 5000, des fois à 10 000. 10 000 Hz. 5, et les milliers de Hz, vous verrez que c'est souvent abrévié avec un K. K pour kilohertz. Et pas souvent, on a un contrôle sur l'indice de qualité du filtre. C'est rare pour les filtres aigus et les filtres graves. Ça peut arriver, mais c'est rare. Par contre, la plupart des dispositifs un peu professionnels ont un filtre de ce genre-là, qui est le filtre médium. Et là, il y a deux variantes. La version égaliseur graphique, où les fréquences de coupure sont fixes, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 en général. Ou bien un filtre paramétrique, dans lequel j'ai un bouton qui me permet, de, comme je le fais ici, de déplacer la fréquence de coupure, de régler la quantité de boost ou de coupure, de filtrage ou de résonance, et de régler la raideur du filtre. Un filtre comme ça est un filtre doux qui déforme plus naturellement le son, et un filtre très pointu comme ça vient sélectionner une bande de bruit, une bande de son étroite, au prix du naturel. C'est plus naturel, ça sonne plus aussi naturel de faire ça. Donc ça, ça serait un filtre paramétrique. Donc, passe haut, passe bas, résonant, coupe-bande, passe-bande, shelving grave, shelving aigu et paramétrique. C'est tous les types de filtres que je connais. Il y en a peut-être d'autres des plus exotiques, là, mais c'est ce que vous allez trouver dans la vie de tous les jours. Et dans 80% des cas, c'est soit des shelving grave aigu, soit des médiums, soit des passe-bas. Un peu de temps, peut-être on pourra revenir là-dessus. Un égaliseur graphique, c'est une série de filtres, et ça s'appelle graphique parce qu'on voit la courbe de réponse en regardant les curseurs. Et un filtre paramétrique, c'est un filtre ajustable. Un autre petit point, parce que je n'aurai pas le temps de vous parler de Max comme je l'aurais voulu, il faudra que je revienne. Dans tous les logiciels de ce type-là, vous savez que vous avez une aide en ligne formidable. C'est la bonne façon d'apprendre les logiciels. Que ce soit Pure Data ou Max, prenez le temps de faire les tutoriels, d'aller faire les leçons une par une, de faire les exercices, essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'écouter ce que ça donne. C'est comme ça que vous allez vous développer un arsenal d'outils qui vous permettra, quand vous avez une idée, de savoir comment vous allez la réaliser. Et l'aide en ligne pour chaque objet, pour chaque fonction, c'est la bonne méthode. C'est vrai dans Word aussi, c'est vrai dans Excel aussi. En numérique, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a des livres qu'on peut acheter, on peut prendre des cours, mais au bout du compte, on en revient toujours à ça. On passe du temps, puis on regarde l'aide en ligne pour chaque objet. C'est vraiment le chemin que je vous recommande. Ça ira plus vite si vous faites ça. Et l'intérêt, c'est que pour les ensembles complexes, ici, tout est branché d'avance. Je n'ai pas besoin de me dire, ah oui, il faut que je branche tel objet pour que ça marche. La sélection des différentes composantes qui vont ensemble pour faire l'effet voulu est déjà faite. Donc, c'est un gros gain de temps. Et quand on fait soi-même ces patchs, c'est un gros gain de temps aussi. On va copier une fenêtre comme ça, comme point de départ, plutôt que de recommencer à partir de zéro. Quand j'ai besoin d'un filtre dans un dispositif, je vais chercher celui-là, avec tous les petits gugus qui vont avec. Et comme ça, ben, ça prend le temps de copier-coller. et non pas de tout reconstruire en filtrer son, et son environnement. Cela dit, de construire tout l'environnement, ça peut être utile aussi pour voir comment régler les choses, mais en première ébauche, ce n'est pas nécessaire. Bon, on observe. La deuxième grande famille de sons, c'est ce qui est lié à l'intensité du son, des traitements sonores, c'est ce qui est lié à l'intensité du son. Au départ, la composante essentielle dans le monde du traitement du son, c'est l'amplificateur ou l'atténuateur. Alors, c'est quoi la différence entre un amplificateur et un atténuateur? Un atténuateur, ça diminue l'intensité du son qui rentre dedans. Ça ne l'amplifie pas. 80% des appareils qui nous entourent sont des atténuateurs. Les vrais amplificateurs sont rares. Les amplificateurs, comme le nom l'implique, ajoutent de l'énergie. C'est pour ça que c'est plus rare. Parce que faire un bon amplificateur, il faut des composantes électroniques de bonne qualité pour pas que ça rajoute du bruit en même temps que de l'intensité. Et donc, toujours, ce qui coûte cher dans les dispositifs électroacoustiques physiques, c'est les amplificateurs. Il y a toujours le nombre minimal de tranches dans la console, parce qu'une console, ça coûte cher à cause de ses composantes. Ça, c'est un premier point. Dans la plupart du matériel, les choses sont graduées en décibels négatifs, parce que c'est la quantité de décibels d'atténuation. Et s'il y a du positif, c'est le cas de cette console-là, par exemple, elle va de 0 à moins 60 et à plus 6. Le plus 6, c'est la partie amplificateur, et moins 60, c'est la partie atténuateur. Alors, on a su assez vite fabriquer des amplificateurs asservis, c'est-à-dire des amplificateurs dont on est capable de varier les paramètres avec un autre dispositif. Le système le plus simple étant un bouton, un potentiomètre. Ici, c'est une résistance variable qui vient contrôler le niveau d'atténuation ou d'amplification. C'est difficile de faire ça, parce qu'il faut que la courbe de réponse soit bonne. Faire un bon potentiomètre qui nous donne une sensation d'intensité continue et lisse. Les mauvaises consoles, on en... Le son monte tout de suite ou diminue tout de suite. Pire encore, les pédales de guitare, où souvent elles ne sont pas faites avec des composantes assez de qualité. Et du coup, on n'a pas un contrôle fin du volume. Or, quand on veut bien faire les choses en musique électroacoustique, je vous le disais tout à l'heure, le réglage fin et délicat de l'intensité des choses l'une par rapport à l'autre. Tout est là. Tout est là. Comment fonctionnent les équilibres? Comment fonctionnent les mélanges? Est-ce que tel son mélangé à tel autre son, ça colle ou ça colle pas? C'est dans la plupart des cas des questions d'intensité en jeu. Donc, prendre du temps pour mixer finement et précisément les choses, c'est du temps de qualité, c'est du temps esthétique. Ça vaut vraiment la peine, même si ça a l'air complètement utilitaire. Et servez-vous pas de vos yeux dans Pro Tools, servez-vous de vos oreilles pour équilibrer les sons. Surtout venant des arts visuels comme vous êtes pour la plupart, vous allez être tenté par faire les réglages à l'œil. Ça a l'air beau comme ça, ou ça module bien, c'est bien dans le verre, etc. C'est l'oreille qui le juge parce que c'est aux oreilles que vous destinez vos pièces. Fermez les yeux ou éteignez l'écran, une fois de temps en temps. Alors, l'autre chose importante à dire ici, c'est les outils qui dérivent de ça. Le plus ancien et peut-être le plus méconnu et le plus difficile à maîtriser de tout ça, c'est le compresseur. Le compresseur, c'est un amplificateur asservi, un amplificateur contrôlé, qui comporte trois parties. Un amplificateur atténuateur, proprement dit. Un système de détection d'intensité, qui fait une analyse en permanence de l'intensité du son qui arrive à l'entrée de l'appareil. Et des différents réglages qui découlent de ça. Typiquement, on donne une courbe de réponse à l'appareil et on appelle ça une compression. Alors, vous ne voyez pas la ligne claire. Imaginez une diagonale qui va de ce coin-là à ce coin-là. Ça représente le son naturel, le son non transformé. Ça se lit, ce tableau-là, comme étant de l'intensité en fonction de l'intensité. En X, c'est l'intensité qui rentre, en Y, l'intensité qui sort. Et si une diagonale parfaitement 45 degrés, ça veut dire que ce qui rentre et ce qui sort sont identiques. Suivez ça? Bon. Si je déforme la courbe et que je commence à 45 degrés, et puis après, j'aplatis la partie en haut à droite. Si vous avez compris ce que je dis, vous venez de comprendre que dans ce cas-là, je diminue l'intensité quand c'est fort. Vous suivez ça? Si c'était parfaitement plat, parfaitement horizontal, c'est un réglage particulier qu'on appelle un limiteur et qui dit qu'à partir de telle intensité sonore, mettons moins 20 décibels, le son n'augmente plus en intensité. Ça, c'est un limiteur. Là, j'ai un réglage qui n'est pas parfaitement horizontal, qui n'est pas parfaitement plat, qui a un petit angle. Ça, c'est ce qu'on appelle un compresseur qui laisse passer le son non changé jusqu'à un certain point, la première partie de la diagonale, et qui, à partir d'un certain point, augmente moins vite que le son qui rentre. C'est clair? Bon, c'est un peu technique, mais l'idée de ça, c'est que, on va prendre un exemple de la vie de tous les jours. On met un CD qu'on aime bien, qui est une musique composée pour CD, donc qui est faite avec des sons très doux, parfois, des sons moyens, puis des sons très forts. Pas d'une musique mixée où tout est à 100% tout le temps, là, ça existe aussi, mais une musique plus variée, mettons la guitare acoustique, de la voix, puis l'orchestre qui rentre après. Dans un cas comme ça, vous le savez, dans la vie de tous les jours, on met assez fort pour entendre bien la guitare, les voix délicates, etc. Puis quand on rentre la basse et la batterie, on sursaute et on va baisser. Vous voyez? En faisant ça, on fait le compresseur. C'est-à-dire qu'on a une détection du niveau, on va augmenter le niveau général pour entendre bien les parties douces. Et quand ça devient trop fort, on baisse le volume. C'est ce que fait un compresseur, il le fait automatiquement. Alors ça, c'est le principe. Concrètement, les réglages des compresseurs se ramènent à quelques points. Premièrement, le seuil, à partir de quelle intensité on veut que ça agisse. Deuxième élément important, la quantité d'atténuation. En général, ça c'est donné en ratio, en 2 pour 1 par exemple. Si ça augmente d'intensité de 2 décibels, l'appareil n'en laisse monter que 1 décibel. 2 pour 1. C'est un réglage de compression assez moyen. Dans la musique classique, il n'est pas rare qu'on mette des compressions de 1,2, 1,3, 1,4, parce qu'on cherche à garder le maximum d'écart dynamique entre les passages doux et les passages forts. Dans la musique métal à fond la caisse, que j'aime bien par ailleurs, on va mettre des seuils de compression de 25 pour 1. Plus. 40 pour 1. Là, ça devient un limiteur. Pour 40 décibels d'augmentation d'intensité, j'en laisse monter. Le réglage de taux, de ratio de compression, c'est le réglage de l'intensité de l'action de l'appareil. Et éventuellement, pour les appareils plus sophistiqués, cette atténuation-là n'est pas instantanée. On peut régler le temps qu'il met avant d'atteindre le réglage et le temps qu'il met pour revenir au son non traité. Dans les pédales de guitare électrique, par exemple, j'ai juste un contrôle du ratio d'atténuation et même pas toujours un contrôle du seuil d'atténuation, ou parfois oui. Dans les compresseurs de studio, au contraire, on a plein de réglages avec d'autres plus subtils que je ne mentionne pas ici. Dans les versions plug-in de Pro Tools, les compresseurs ont plein de paramètres. Mais essentiellement, vous vous y retrouverez si vous gardez en mémoire seuil de compression, seuil de déclenchement, pardon, et taux de compression. C'est vraiment les deux réglages fondamentaux. Le reste, vous apprendrez à les utiliser. Dans mon dispositif ici, j'ai un petit compresseur sur la voie. Pour les mêmes raisons que n'importe qui, c'est-à-dire que quand... quand je chante, moi encore ça va, je contrôle mon affaire, mais je travaille souvent avec une chanteuse lyrique qui a une connaissance un peu générale de tout ça, mais qui ne va pas rentrer dans la cuisine complète. J'ai coupé le retour de l'écho. Et en travaillant avec elle, j'ai eu besoin de mettre un compresseur. On voit en haut ce qui rentre et en bas ce qui sort. Et là, j'ai fait un réglage de 10, donc de 10 pour 1, pas mal de compression. Un seuil de déclenchement à moins 15 décibels, c'est-à-dire modérément fort. Et un temps de réaction assez rapide, disons, pour pas qu'on entende la machine trop opérer. Je veux un compresseur discret et assez naturel à ce niveau-là. Parfois, dans les appareils, dans les versions logicielles, on voit du rouge qui apparaît. Et quand il y a beaucoup de rouge, c'est que l'appareil compresse beaucoup. Quand il y a peu de rouge, l'appareil compresse moins. Bon, c'est un guide ça, pour faire les réglages. Par exemple, le réglage du seuil de déclenchement est très très sensible en fonction du type de son qu'on compresse ou pas. Hein? Oui, oui. Threshold. Ça, c'est l'aide en ligne du même machin. J'ai mis un seuil bas. Ce qui fait que le compresseur est tout le temps en train de compresser, il ne laisse plus passer beaucoup de son. Je vais le monter un peu, je l'ajuste à l'oreille. Et là, il est dans la zone que je veux, je voudrais faire ressortir la basse plus. Après, le ratio de compression. J'en mets beaucoup. Il n'y a plus de dynamique. Tous les sons sont au même plan. Et je le remets à zéro. Là, il y a beaucoup plus de fluctuations dynamiques. Pour vous donner un exemple que vous avez peut-être dans l'oreille, vous connaissez le groupe Queen. Au milieu des années 70, Queen était maniaque, comme beaucoup de groupes de pop de ce moment-là, était maniaque de la compression et ils en mettaient beaucoup trop. Fait que le pauvre Freddie Mercury avait plus d'expression dans sa voix, ça donnait des choses très très lisses. Ça peut être intéressant de faire ça comme effet, mais du coup ça privait un peu de sa musique, de son expressivité, et le mauvais son FM, comme on disait à l'époque, venait beaucoup des compresseurs qui aplatissaient tout et qui... voilà. Et quand les punks sont arrivés à la fin des années 70, eux ils ont retiré les compresseurs et se sont mis à faire des choses très extrêmes, avec beaucoup d'écart, et ça redonnait du dynamisme à la musique. Aujourd'hui, on est dans une période où les enregistrements commerciaux sont extrêmement compressés à nouveau. Tout est boosté à 100 décibels, à mort, etc. L'oreille sature. C'est sûr que ça fait comme les pubs. Bon, tout est fort, là. Les pubs utilisent des compresseurs pour la même raison. Mais ça provoque une lassitude de l'oreille assez importante. Aussi. Donc, à vous.
C'est pas aussi pour une question de réponse des différents systèmes de diffusion ?
Oui. Ben c'est ce que je disais au départ avec mon exemple de compression manuelle. Le problème, et c'est pour ça qu'on a inventé rapidement le compresseur, dès les années 40, le problème, c'est que tous les systèmes ont du bruit de fond. Et si vous écoutez Citizen Kane, par exemple, le film, en détail, vous allez entendre que tantôt, il y a beaucoup de bruit de fond, puis tantôt, il n'y en a plus, tantôt, on entend beaucoup les voix, tantôt, on les entend, etc. Il y a un compresseur assez rudimentaire à l'œuvre à ce moment-là. Et l'idée, puisque les systèmes n'avaient pas beaucoup de dynamique entre le seuil de bruit de fond et le niveau maximum de l'intensité que pouvait supporter le système, on compressait les 120 décibels de notre audition à l'intérieur d'une fourchette de 20 à 30 décibels à peu près. Ça, c'est pour les vieux, vieux systèmes des années 40. Dans les années 50 et 60, la bande magnétique a permis de récupérer un rapport signal-bruit de l'ordre de 60-70% dans les meilleurs cas. Par contre, le disque vinyle avait 40 décibels d'écart entre les sons les plus doux et les plus forts. C'est pas beaucoup. Le fameux temps, le bon vieux temps du vinyle, moi je marche pas trop dans ça. Les vinyles, ça grattait, ça faisait du bruit, c'était sale, puis il n'y avait pas de dynamique. À vous de voir si ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, j'en fais pas une religion. Mais c'est... méfiez-vous, il y a du marketing et de l'industrie derrière ça. Tout ce que je vous propose. Bon, l'écart dynamique d'un vinyle, 40-45 décibels dans les meilleurs cas. Le CD numérique, les premières générations n'étaient pas fameuses, ça faisait de l'ordre de 60 décibels. Et de nos jours, on est dans 95-100 décibels d'écart entre les sons les plus doux et les sons les plus forts à 24 bits. Ou, parce que la résolution du système intervient là-dedans. Donc, c'est ça qui fait que quand il y a un CD, que les parties très douces sont trop douces et que les parties fortes sont trop fortes, c'est parce que on a une grande plage dynamique. Mais dans la réalité d'une salle de concert, c'est comme ça. Les passages très doux sont très doux et les passages forts sont très forts. Simplement, chez soi, c'est pas toujours pratique. Chez soi, c'est pas une salle de concert. Le problème est là. Donc, pour essayer d'adapter ce problème d'une trop grande plage dynamique à des conditions réelles d'écoute, on compresse. C'est pire avec les MP3, très petite échelle dynamique, et tous les petits baladeurs bon marché ont aussi une petite échelle dynamique. Donc c'est un problème pour cette raison-là, et ça a poussé vers des musiques totalement compressées. La musique à l'heure actuelle est un peu désespérante à ce niveau-là, je trouve. Même dans des balades, même dans des choses douces, on devrait avoir un écart plus grand entre les sons doux et les sons forts. C'est presque plus le cas. Une espèce de surenchère permanente pour donner un gros son, etc. Bon, je mets ça en doute personnellement. À vous de voir ce que vous aimez. Après, c'est une question de goût personnel, évidemment. Mais la question centrale, c'est l'écart entre le son le plus doux et le bruit de fond. Ces trois paramètres-là qui rentrent à un nombre de compte. Même chose en prise de son, hein, d'ailleurs. Quand on fait une prise de son à la volée, dehors par exemple, on est constamment en train d'ajuster le niveau du microphone entre le bruit global pour pas trop en enregistrer et puis la qualité du son qu'on est en train d'enregistrer. Et il faut constamment lutter entre le seuil de bruit et le niveau maximum de qui provoque de la saturation. Donc en gros, on monte quand c'est doux et on baisse quand c'est fort. On fait le compresseur manuel. Mais la différence, c'est qu'on ne le fait pas automatiquement, mais qu'on le fait en connaissance de la qualité sonore de ce qu'on enregistre. Et ça, c'est important. Un bon perchman, un bon ingénieur du son en télé-radio, il est constamment en train de nuancer ça. Et une bonne prise de son, elle est sensible à cette question-là, toujours pour optimiser le rapport signal-bruit. Donc, je vous le redis, la sensibilité à l'intensité du son, c'est clé fondamentale de tous ces métiers-là. Vraiment, plus vous investissez de temps à sentir, à entendre, à trouver les bons réglages qui fonctionnent pour ce que vous êtes en train de faire, plus vous obtiendrez un niveau de qualité professionnelle et artistique. Ça a l'air le plus technique, et en fait, c'est peut-être le point le plus sensible. Donc, investissez du temps à faire fonctionner des compresseurs. Et à régler vos niveaux comme il faut. Accessoirement, un amplificateur peut lui aussi être contrôlé par un oscillateur à basse fréquence, comme les chorus flanging phasing. Et dans ce cas-là, c'est l'intensité de l'amplificateur qui est modulée. Et vous connaissez peut-être l'effet sous le nom de trémolo. trémolo d'amplificateur de guitare électrique en particulier. Si vous aimez la musique cajun ou le rockabilly, on entend souvent des sons en trémolo. Il y a un oscillateur dans l'ampli qui vient moduler l'intensité. Il y a ça sur les pianos Wurlitzer aussi. Les pianos électriques. Bon, c'est un effet tout simple. Le niveau de l'amplificateur est contrôlé par un oscillateur qui vibre. Et à chaque fois qu'il y a un oscillateur à basse fréquence, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a en général trois contrôles. Un contrôle sur l'intensité de la modulation. Est-ce que ça module beaucoup ou ça ne module pas beaucoup? On a un contrôle de vitesse de la modulation. C'est souvent maintenant calibré en termes de Hertz, de 0 à 10 Hertz en général, pour ces effets-là. Et plus rarement, on a un contrôle de la forme. Est-ce que c'est une forme anguleuse, comme j'ai dessiné ici, ou une forme plus douce, ou une forme carrée, ou une forme en dentille ou en rampée. Et ça peut avoir une incidence considérable sur l'effet sonore. Par exemple, l'effet de trémolo guitare électrique, c'est une forme comme celle-là, en progression assez lisse, mais pas douce. Elle est plutôt anguleuse. Comme ça, l'effet est plus prononcé. Le pic au sommet et à la fin est plus intense. Si je mets une forme sinusoïdale, j'ai un effet plus discret, plus léger. Un chorus, par exemple, a typiquement une oscillation de type sinusoïdale plutôt que triangulaire, comme ça. Et les effets de trille sont faits par des modulations carrées. Les sonneries de téléphone, les sons de modem, les oiseaux électroniques dans les petits appareils de Hong Kong à 1,50€, c'est des sons modulés par un oscillateur à basse fréquence de forme carrée. Pour faire les tri. Une dernière petite chose assez intéressante. Oui. En numérique, vous savez comment on obtient des filtres. Comment les différents filtres sont obtenus. Ce n'est pas fait comme en analogique avec des composantes, des sortes de résistances qui viennent absorber une partie du son. C'est fait, et ça peut être étonnant au début, c'est fait avec des lignes à retard aussi. Je vais essayer de vous montrer comment. Si vous êtes familier avec les sons de flanger, vous avez peut-être déjà remarqué ces effets-là. Si je mets des temps de délai très courts, 1 milliseconde. Si on met des temps de délai très courts, 1 milliseconde, 2 millisecondes, beaucoup de réinjections. Entendez le son électronique qui s'ajoute. Les flangeurs opèrent comme ça, avec des délais super courts. C'est la grande différence entre un chorus et un flanger. Le chorus a un délai modérément long, 50, 60, 70 millisecondes de délai. Un flanger, c'est 1, 2, voire moins millisecondes. Et il se produit une chose, comme on l'entend là. Je n'ai pas de filtre actif là, c'est le délai qui fait ça. Quand le délai est très très court, il vient créer un effet de résonance, comme le faisaient les filtres analogiques. Et en contrôlant ça de manière précise, et c'est la durée exacte du délai 4 chiffres après la virgule en millisecondes qui permet de contrôler ça, on transforme le délai en filtre. les bandes de résonance, si vous connaissez les GRM Tools, il y a un outil qui fait ça. C'est une série de délais très courts comme ça, avec des résonances qu'on peut accorder. Ça marche de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les effets principaux, à moins que vous ayez des questions. Il nous reste 5-6 minutes, si vous voulez. Le dernier truc. À quoi ça sert? C'est surtout à quoi ça sert que vous n'avez pas compris. Comment on fait pour faire un filtre en numérique? Et en analogique, c'était facile. On a des composantes qui s'appellent des résistances qui absorbent une partie de l'énergie et transforment la forme des choses. Et en déformant la forme du signal, c'est comme si on retirait des fréquences, en quelque sorte. Donc on le faisait de cette manière-là en analogique. Mais en numérique, on n'a pas un moyen direct de faire ça. Et le moyen indirect pour obtenir cet effet de fréquence qui amplifie ou qui atténue certaines fréquences, ça a été de le faire avec une ligne à retard, calibrée avec des délais super courts, mais très précis, et assez de réinjection pour que ça fasse ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire une résonance. Et c'est un moyen invisible pour l'utilisateur de transformer une ligne à retard en filtre. Bon, pour l'utilisateur, ça ne change rien, mais je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Et si vous voulez faire des effets qui sont mi-filtrage, mi-délai éco-modulation, investir du temps dans une ligne à retard avec tous ces réglages secondaires va peut-être vous amener au bon endroit. C'est aussi pour ça que je disais ça. Vous comprenez? Vous vous rendez compte de la variété des effets qu'on fait avec une ligne à retard? C'est considérable quand même. Là, j'ai un effet de résonance. J'ai trois retards là-dessus. Je vais les accorder sur des fréquences différentes. Vous allez voir ce que je veux dire. Ça résonne trop là. Ça va faire du larsen parce que ma réinjection est trop forte. Il faut que je le diminue. Vous voyez, on entre dans un effet hybride qui est mi-rythmique, comme un écho, mi-fréquentiel, comme un filtrage. Donc, dans les composantes normales d'une ligne à retard sophistiquée, vous allez donc trouver un filtre à l'entrée qui permet de faire les effets de changement de brillance du son, qui me servait aussi pour faire l'effet wah-wah. Un nombre variable, 2, 3, 4 délais qui font les effets rythmiques, et éventuellement de la réinjection qui crée soit plus d'écho, soit des phénomènes de résonance, c'est ce qu'on entend là. Un temps de retard qui va de très court à la durée totale de mémoire qu'a votre système. Dans les pédales de guitare électrique, c'est souvent 2 secondes la limite maximum. Dans les systèmes, ce qu'on appelle les loopers, vous connaissez ça peut-être, on peut enregistrer des longues boucles, ça va jusqu'à 32 secondes, 1 minute, 2 minutes d'enregistrement, mais c'est encore de retard. Et dans un système numérique comme celui-là, on en a autant qu'on mette de barrettes de mémoire dans l'ordi. Donc là, ici, j'ai plusieurs dizaines de minutes de temps d'enregistrement, si je veux. Un autre outil dont je n'ai pas parlé, qui arrive souvent, c'est le transpositeur. Je vais remettre un délai normal, si vous voulez bien. Ça c'est mieux. Il y a souvent dans les transpositeurs. Il est à la seconde majeure. Bien. Ça, c'est un transpositeur. On l'appelle aussi harmoniseur. Ici, il est à une voix. À strictement parler, un harmoniseur a plusieurs voix. Et on peut régler les différents voix. Problème. Le ridicule qui vous fait rire vient de quoi, à votre avis? Parce qu'on a l'effet Mickey Mouse ici, il y aurait aussi l'effet Darth Vader dans l'autre sens. Ça devient vite ridicule, ces choses-là, sur la voix humaine. Parce que notre oreille est très sensible à la courbe de distribution des fréquences et au spectre. Et si je déforme une voyelle qui de A devient Mickey Mouse-esque, elle est trop déformée, elle entre dans le ridicule ou carrément dans l'incompréhensible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éviter l'effet, c'est juste que c'est un de ces paramètres. Sur des sons plus pauvres, je vais siffler, vous allez voir, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est pas ridicule, c'est pourtant les mêmes intervalles de transposition. C'est très très sensible à la nature de ce qu'on envoie dans l'harmonie. Si on veut des transpositions graves, on en avoir par là. Ça, c'est mon bricolage pour un harmoniseur, vous ne voyez rien. C'est un harmoniseur quatre voix où je détermine en pourcentage de demi-ton les intervalles de transposition. Et quand je fais une pièce écrite, je m'arrange pour que les intervalles de transposition correspondent à l'harmonie de la pièce. Donc, si je fais de l'harmonie tonale, je vais mettre des intervalles qui correspondent à la musique tonale, des quintes, des octaves, des choses comme ça. Si je fais de la musique non tonale, ce que je fais le plus souvent, je vais accorder mon harmoniseur sur le système harmonique de ma pièce. On peut se servir de ça pour épaissir un son. Lorsque je fais, on va le mettre en réglage simple ici. S'entend à peine, c'est juste une doublure du son. J'ai transposé de 10 centièmes de demi-ton les copies, donc on ne l'entend pas, mais ça fait étoffer le son, ça fait épaissir le son, comme si un groupe de 4 chanteurs chantait avec moi. Un peu plus d'épaisseur. Une épaisseur un peu plus massive. Et ça, c'est un moyen pour donner la masse à un son qui est un peu simple, un peu pauvre. Par exemple, vous voulez transformer un petit oiseau en baleine et lui donner un peu de masse. Vous allez faire des transpositions par grands intervalles vers le grave et faire plusieurs copies légèrement désaccordées l'une par rapport à l'autre pour que d'un son pauvre, il devienne une espèce de masse sonore. Essayons ça, voilà. Donc on va faire moins 24. Non, moins 24. Oh. Donc, les harmoniseurs sont utilisés. C'est dommage qu'on ne l'entende pas, mais vous ferez votre propre expérimentation si vous en trouvez. Soit pour générer des harmonies, ça a été pensé comme ça au départ autour des sons principaux, mais c'est souvent beaucoup plus intéressant pour déplacer un son dans un registre qui n'est pas le sien. Prendre un son aigu, le mettre dans le grave, prendre un son grave, le mettre dans l'aigu, pour aller explorer des côtés secondaires du son qu'on n'entend pas dans son registre normal. Et en déplaçant, complétant un son de son registre, ça marche aussi très bien avec un échantillonneur. Parfois, on va trouver des qualités sonores, des comportements sonores tout à fait inusités à partir d'une matière qui est banale au départ. Si mon réglage veut bien marcher, je vais essayer de vous montrer ça d'une autre façon. J'allais chercher un son naturel, tout à fait banal. Enregistrement nocturne quelconque. Il se trouve que c'est mes forêts natales, mais ça peut être n'importe où. Et si on va si on le transpose. Typiquement, l'échantillonneur le plus courant va transposer de moins 1, moins 2, moins 3 octaves maximum. Mais si on va vraiment plus loin que ça. Petites grenouilles toutes petites deviennent des espèces de gros monstres invraisemblables. Et ils se cachent dans les sons, dans les transpositions extrêmement graves, extrêmement aiguës, des formes sonores sortent de la perception ordinaire des choses et qui peuvent faire une espèce de fenêtre un peu surréaliste sur une réalité cachée derrière la réalité apparente. Il y a toujours eu un élément assez surréaliste dans la musique électroacoustique. inverse. Des transpositions très aiguës. Là, je fais 14 fois la vitesse d'origine. Transforme aussi complètement la perception. Et si le son se prête bien à ce genre de choses-là, vous allez trouver des trésors aussi de cette manière-là. Ne pas respecter le naturel des choses, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le naturel est une source de finesse quand on veut le respecter, mais le non-naturel, les monstres, sont aussi une source d'exploration considérable qui peuvent vous entraîner bien plus loin dans vos projets. Bon, je vais m'arrêter là-dessus en vous recommandant d'être curieux, de sortir de vos habitudes et puis de retrousser vos manches. Je pense que vous allez trouver beaucoup de choses avec tout ça. Pour finir, je vous avais dit que je ferais une petite impro. Ouais, on peut essayer. Ça, c'est le dispositif que j'utilise en concert très souvent.
Oh.
Bon, ça c'est une impro vraiment sans préparation. En général, j'ai un texte, donc là, je peux amplifier, déformer, aller vers un texte, la parole intelligible, etc. Mais comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ça m'intéressait moins juste là. Et je n'ai pas parlé de ça et des autres dispositifs interactifs que j'utilise. On est dans une période formidable pour ça, parce que l'industrie développe pour nous des tas de gadgets et de bidules et de machins qu'on peut détourner facilement. J'ai pris une manette de jeu, la JTEC, la plus bas de gamme possible, c'est indestructible. C'est un peu traîner ça en tournée n'importe où, ça marche tout le temps. Et si ça casse, ça se trouve. Premier magasin de jeux vidéo venu. Ça se branche en USB, tout simplement. Et contrairement à d'autres outils sophistiqués, celui-là, on peut s'amuser avec. Comme vous le savez, c'est plein de boutons qui sont prévus pour les fonctions des jeux. Mais c'est très facile dans un logiciel comme celui-là de détourner les différentes fonctions. J'ai pris un des joysticks pour la hauteur. Et comme il y a de la réverb et de l'écho, ça crée une espèce de bourdonnement autour. Si je prends dans un registre plus moustique, ça va être pire. Là, il y a de l'harmonisation aussi sur le son. Après, ça me semblait naturel d'utiliser le gauche-droite du joystick pour panoramiquer à gauche et à droite. Et ici, c'est le filtre. Qui vient encore plus ou moins timbrer le son du synthétiseur. Ce que je manipule ici, ce n'est pas des effets, c'est de la synthèse. Les effets, je les change, la synthèse, je les joue en quelque sorte. Et c'est tout bête. Alors, une des pistes que vous avez pour ça, je vais vous montrer l'objet qui fait ça. Il est ici. Direction, c'est celui-là. Il y a un objet dans Max, il y en a un autre dans Pure Data. Vous ne voyez pas. S'appelle HI, Human Interface, et ça vient échantillonner n'importe quel appareil qui est branché en USB. Comme ces choses-là sont programmées de façon stable par l'industrie du jeu vidéo, il sait tout de suite reconnaître que c'est un dual action Logitech. Et ici, tout ce que j'ai fait, c'est qu'à la sortie de l'objet, j'ai séparé les différents boutons et je mets des émetteurs identifiés avec des étiquettes que j'ai pris moi-même. Ça, c'est le MDA. Donc, j'ai appelé mes boutons MDA1 pour le bouton 1, MDA2 pour le bouton 2, MDA joystick X pour celui de gauche, MDA joystick Y pour l'autre dimension, même chose pour le deuxième joystick, joystick 2, etc. Donc, je mets des étiquettes pour chaque outil et je ne sais pas si vous voyez les chiffres qui changent dans les petites fenêtre, là. Et après, dans mes objets interactifs, je vais récupérer ces informations-là pour venir manipuler les paramètres qui m'intéressent. Alors, si on va dans le synthétiseur, par exemple, il doit être ici. Oui. Ça, c'est le synthétiseur que j'employais. Celui-là, c'est une sorte de synthèse soustractive, genre mini-Moog, si vous voulez, mais pas tout à fait. Et j'ai programmé mon clavier de dactylo pour ne pas avoir à traîner un clavier en plus du reste du bordel, pour faire les notes, avec une finesse que je vous expliquerai après. Et à l'intérieur de ce dispositif-là, il est sensible. Par exemple, l'étiquette ici, cette chose-là, est sensible à la molette de direction là. Et grâce à la molette de direction, je transpose d'octave avec ça. Il y a 8 octaves possibles avec ça, les 8 directions de la molette. Ça a aussi l'intérêt de me donner des sons pédales si je veux. Comme ça, je peux faire un bourdon par-dessus lequel je vais jouer. Donc, j'ai programmé ce bouton-là pour tout arrêter. Très utile dans le cas de panique. J'ai programmé tel autre bouton pour déclencher tel son. Programmé. Ça, c'est le bouton du filtre. À côté, j'ai mis 4 réglages de filtre ordinaire dont je me sers tout le temps. Simplement en récupérant l'information et le joystick arrive ici. Si vous voyez les valeurs qui changent là, c'est un mixage en quadriphonie. Hein, c'est pour ça que ça faisait bizarre. Je vais le remettre en stéréo. Comme ça, en X, je peux faire des fade-in sur le son. En Y, je parle de pas de son à 100% du son. Et en X, et en même temps, ça transpose. Ça me permet aussi de faire des vibrato contrôlés. Ben, ce qui m'intéresse dans tous ces petits dispositifs-là, c'est qu'on en fonction des boutons, des formes, des contrôleurs qu'on a sous la main, on va chercher le réglage qui est organique par rapport à l'effet qu'on veut contrôler. Je vais mettre un son grave, ça va être plus clair, comme ça. Tiens. Non, je ne comprends pas. Et quand j'ai fait le choix de dire ce bouton-là fait telle fonction-là avec telle plage de valeur, parce qu'il faut calibrer ça aussi, je fais des choix qui sont des choix d'instrumentiste en fait, des choix d'ergonomie du geste. Et par exemple, si je veux contrôler une chose continue comme la hauteur du son ou l'intensité du son, je l'ai affecté à un contrôleur continu à plusieurs valeurs, 255 en l'occurrence. À l'inverse, si je veux des couleurs de filtre différentes, de dérégler. Pour des déclenchements ponctuels, je veux ce son-là, et je n'ai pas besoin d'intervenir sur une plage de valeur continue. Là, je vais choisir un bouton qui est un commutateur à deux valeurs, oui, non, ou 0, 1. Oui. Il y a une ergonomie de la forme de l'objet, une ergonomie de la plage de valeur et du type de contrôleur qui interagit en finesse avec le son. Programmer un changement d'intensité sur un bouton à deux positions, c'est se contraindre à faire un son doux, fort, sans transition entre les deux, par exemple. Régler un filtre sur quatre boutons comme je l'ai là, c'est se limiter à quatre couleurs possibles. Ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être musicalement, mais à vous de voir. À l'inverse, contrôler la hauteur avec un machin continu comme ça, c'est se contrôler à glisser d'un son à l'autre, ce que faisait le vieux Thérémine. C'est une couleur très typée, ça peut marcher musicalement, mais ça peut ne pas marcher aussi. Si vous aimez musicalement des choses très découpées, très en intervalles très nets, et vous n'aimez pas la transition d'un son à l'autre, ce n'est pas le bon contrôleur. Pour certaines tâches, celui-là ne me convient pas. Je prends un joystick 3 dimensions, ce qui est assez intéressant aussi, parce que je contrôle 3 paramètres continus simultanément. Mais là, je voulais prendre juste un petit sac, comme je n'ai pas pris les deux manettes. Un iPad nous donne une belle surface à 2 dimensions avec plein de contrôleurs possibles pour venir entrer encore plus en finesse. Si j'avais pu le faire réagir aujourd'hui correctement, je vous aurais montré ça. Mais je pense que vous avez compris le principe. Après, c'est à vous de travailler. Et je veux bien maintenant passer à la dernière phase de notre journée. En quoi est-ce que tout ça peut agir sur vos projets et vos idées générales? Là, il faut que j'en sache plus sur vos projets et sur vous pour passer à cette étape-là. Vous voulez faire une petite pause avant? Ou on enchaîne?
Si j'avais juste une question sur le petit objet de tout à l'heure.
Oui.
Manette.
Laquelle, celle-là?
Ah,
l'autre, oui, je ne l'ai pas branché encore. Ah, ouais, je vais la brancher. Il me faut juste 2 minutes, le temps de l'activer.
Pendant que tu branches,
oui.
J'avais trouvé très très peu de joystick compatibles de Macintosh, on trouve facilement.
Oh, ça, partout. Je l'ai acheté chez Carrefour en faisant mon épicerie. Oui, ça dépend des cas, mais parfois oui. Ben là, je faisais une impro. Dans une pièce écrite, le patch que j'utilise depuis ce matin, c'est un patch pour une pièce écrite qui était pour accordéon, violoncelle et électronique. Et là, j'ai de la musique écrite normale pour les instruments et une série de points de repère qui vont déclencher une conduite de concert, comme on peut le faire en régie normalement. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ici. Alors cette pièce-là s'appelle Ligne droite et enchevêtrée. Elle est divisée en 6 grandes parties, il y a 6 mouvements et avec des sous-parties. Et là c'est de la programmation un peu à l'ancienne. Quand j'appuie sur le bouton que j'ai prévu pour ça, c'est celui-là, et que j'arrive à l'événement suivant. Il sait que c'est l'événement 1, par exemple, de cette section-là. Et alors là, à l'événement 1, ici, hein, j'ai programmé d'aller chercher la console de mixage dans son réglage numéro 7, d'éteindre le synthétiseur numéro 2, d'allumer les 2 compresseurs, de régler l'écho à 400 millisecondes pour un, 300 millisecondes pour l'autre, 160 millisecondes pour un, etc. J'ai des réglages précis comme ça, de réglages ponctuels que je déclenche simultanément. Il y a quoi là? Il y a 40 commandes d'un coup au numéro 1. Plus subtilement, j'ai aussi des allumages de processus interactifs. Par exemple, le wah-wah qui est toujours actif là, le wah-wah qui est sensible à la dynamique de ce du son que je lui envoie, l'auto-wa, dans cette ligne de commande-là, ça apparaît juste comme auto-wa 1, allume l'auto-wa. Mais en réalité, c'est un processus dynamique qui est en permanence en train d'écouter ce que je lui envoie. Donc ça, c'est juste une télécommande, en fait, qui est programmée de manière judicieuse, et je passe pas mal de temps à programmer ça. Quand j'écris la pièce, j'écris ça, à partir d'une série d'improvisations préalables, en général, ou bien parce que je connais mon matériel et que je sais ce que je veux en faire exactement. Et c'est un moyen d'avoir de l'électronique en direct, parce que je n'ai pas de contrainte temporelle. L'accordéoniste est rendu à ta mesure, clic, Le violoncelliste fait ça, clic. Ah, c'est à moi, clac. Vous voyez? Donc, je n'ai pas de contrainte temporelle comme on peut être contraint par un CD où il y a une piste enregistrée. Je n'ai pas de contrainte de devoir toujours avoir le même son puisque j'ai des micros sur mes instruments, comme sur ma voix maintenant. Et je peux toujours faire du traitement de son en temps réel. Et comme j'ai des processus dynamiques, les échos les plus brutaux, les choses les électroniques les plus clichés, je peux les éviter parce que je suis constamment en train de changer les réglages par télécommande. Comme ça. Donc ça fait quoi? Ça fait une électronique à la fois écrite à la qualité sonore improvisatoire. C'est ça qui est intéressant ici. On a la précision du numérique et du contrôle et la liberté du concert. C'est pour ça que c'est ça. C'est pour ça que j'aime travailler comme ça. Et je l'ai fait abondamment, ça fait 20 ans que je fais des pièces comme ça, pour toutes sortes de cas de figure. Ça marche, mais il faut apprendre à programmer comme ça. Ça marche. Ma recommandation ici, c'est pour ça que mon patch est énorme et puis il part dans tous les sens. Ça fait depuis 90 que je travaille avec ce patch-là. J'ai commencé un stage d'été à l'IRCAM et puis j'ai jamais arrêté, j'y travaille toutes les semaines. Donc, c'est mon univers. Mon univers de travail, soit pour des choses écrites, soit pour des improvisations. Alors, on va essayer de brancher ça maintenant. Il le voit, c'est déjà ça. Normalement, quand je suis là, il devrait le reconnaître. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais relancer Max. Parce que je crois qu'il faut l'avoir lancé avant qu'il... Je laisse réagir. Ok, donc ça c'est ce que voit l'appareil. Et c'est très fin, hein? Vous voyez la modélisation des deux mains, des poignets, les mains fermées, les mains ouvertes, les mains à l'envers, les mains à l'endroit. Il y a un cadre, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine distance, il ne marche plus. Profondeur. Alors, j'ai relancé Max.
Pendant que ça charge, la chaîne de ton instrument qui est faite de traitement, c'est une chaîne série comme ça?
Oui.
Ou beaucoup plus complexe avec des éléments parallèles?
Ça dépend, il y a les deux. Il y a tous les cas de figure. En gros, j'ai un module par type de son et j'ai beaucoup de fenêtres parce que dans Max, quand on a un patch complexe, il tire profit des processeurs parallèles si j'ai des fenêtres différentes. Si je mets tout dans la même fenêtre mère, il charge tout dans le même processeur. Donc là, je suis à la limite de ce que peut l'ordi. C'est pour ça que ça craquait, je crois. Tout à l'heure, je devais avoir atteint un peu ma capacité de traitement.
Oui, parce que je suis soufflé par le nombre de traitements qu'il y a.
Ouais.
Donc, tu sors, j'aimerais rassurer les gens, mais toi, on n'est pas
oui, non, j'ai de c'est aussi compliqué.
Dans Pro Tools, en fait, il y a largement de quoi se faire. Oui. Dans la chaîne de traitement, les délais, les transposeurs, les choses oui. comme ça, c'est déjà existant.
Je vous ai montré cette version-là. D'abord, pour que vous ayez un sens de l'état de l'art aujourd'hui, même bordélique et assez laid visuellement comme ça. Moi, ce n'est pas mon affaire l'image, je travaille sur le son. Mais je sais qu'une partie d'entre vous aimez la cuisine maison, en quelque sorte, et préférez peut-être aller faire vous-même des choses simples plutôt que de dépendre des programmeurs industriels, etc. L'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas contraint. Je prends le cas de l'écho. La chose la plus banale et ennuyeuse d'un écho, c'est un écho, 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 écho. En même temps, on a besoin de ça et en même temps, on évite de tomber dans la limite de la chose. Mes échos, moi, ils ne sont jamais réguliers, ils sont toujours modulés. Si j'ai une phrase rythmique caractéristique dans un morceau, je vais faire des échos qui suivent la phrase rythmique caractéristique de sorte qu'il y ait une cohérence. Ta, ta, ti, ta, 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 par exemple, si c'est ça mon rythme de base, je fais ça dans l'écho. Fait que jamais j'ai un écho mécanique, j'essaye de trouver des choses organiques. Bon, et ça c'est ma sensibilité à moi. Pour quelqu'un qui commence, comme le dit justement Roger, il est peut-être préférable de commencer par le BABA et de faire les effets les plus standards d'abord, pour savoir ce que c'est. Et après, libre à vous de sortir du cadre et d'aller voir autre chose. Ça je l'ai déjà. Mon gros patch, il est réparti en trois fenêtres. C'est pour ça que je vais en charger trois. Globalement, j'ai réparti en fonction des difficultés de calcul. Vous voyez qu'il y a des croix là, dans les différentes boîtes. Ça, en fait, c'est un moyen d'alléger le processeur. Quand on coche cette chose-là, ce n'est pas calculé. Du coup, je n'ai pas tous les processus actifs simultanément. Parce que sinon, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas... une infinité non plus. J'essaye d'optimiser un peu comme ça. Et quand on pousse la machine trop loin, elle se met à craquer, comme on entendait parfois tout à l'heure. Normalement, on devrait être bon avec ça. Apparemment du son ici. J'ai plus de modules que de tranches dans ma console, même en virtuel on a ce problème là. Du coup il est là. Je vais simplifier le son un petit peu, que ça soit plus compréhensible. Ici. Mmh. voyez ce que ça fait? Je monte le son et je le déplace de gauche à droite. J'ai deux sons. À peu près à hauteur équivalente, donc ils me font la même note. En principe, si je vais vers l'écran, c'est plus timbré. C'est moins timbré. Sauf que je vais sortir du champ de l'appareil si je vais trop loin. Et il est programmé pour se taire quand il n'y a pas d'objet dans le champ. De manipulation, c'est l'inconvénient, mais tous ces systèmes-là sont toujours difficiles à jouer, comme le thérémine était difficile à jouer. L'essayer. Je vais mettre un son plus simple encore. Un peu moins dur. C'est ma tête qui intervient dans le champ. Alors, bon là, je l'ai programmé d'une manière hauteur, spatialisation, mais je peux régler les choses autrement. Voilà. Là, c'est réglé façon Martenot. Clavier, si vous voulez. Et si... Il y a toute une ergonomie du geste à trouver. C'est en cours de développement, là. Hein? C'est pas fini, mais... Ça commence à répondre là, ça commence à être à peu près contrôlable. Il faudrait, pour passer à l'étape suivante, détourner ça.
C'est du détournement ou ça a été fait
spécialement pour ça? Ça a été fait pour contrôler des trucs.
Du quoi?
Ce qu'on veut. L'application, si je vais sur Internet, par exemple, il y a ça. Alors, ça ici, c'est une interface pour sculpter les choses, la forme virtuelle qui est là. Je vais choisir la forme de ma déformation, aplatir par exemple. Après, je vais ici, je vais aller chercher. a été pensé, comme vous le voyez, comme une interface gestuelle. Après, on l'applique à ce qu'on veut. Ici, j'essaye maladroitement de faire un machin. Oui. Je m'en sors de là. Je m'en sers pas souvent, comme vous voyez. Ça, c'était assez drôle. Ça plaît bien à mes enfants. Et c'est pensé comme un substitut de trackpad ou de souris. Par exemple, on peut pointer sur un... On fait comme ça pour cliquer. Oui. Ah, voilà. Très bien. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai un contrôle gestuel. Et bon, là c'était ce mode-là. Après, en principe, on est capable d'aller éclater l'araignée, aller voir ce qui se cache dessous. Bon, il faudrait que je refasse le tutoriel, m'en occuper. Mais en jouant avec la bonne façon, comme ça. Il y a les gestes, il y a un répertoire de gestes, toute la main fermée, un doigt qui pointe, le pouce collé, le pouce ouvert, des choses comme ça qui font des actions programmées d'avance et qui agissent dans le modèle et qui permettent de faire des gestes. Puis je vois qu'ils ont des nouveaux modules. Là, j'ai téléchargé la mise à jour récemment, mais je n'ai pas regardé avec. Bon, moi je m'en suis servi comme interface gestuelle dans mon méga dispositif, etc. Parce que ça m'intéresse pour faire un contrôle de dimension continue du son. Contrôler la hauteur comme ça ou comme ça, c'est un peu bateau, c'est ce que faisaient le Thérémine et Londe Martenot. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, de s'en servir comme méga pitch bend subtil, ça peut devenir intéressant. Jouer les notes sur un clavier musical normal, par exemple, et contrôler l'expression par un geste continu qui peut être flou et imprécis, le filtrage par exemple, ça peut être intéressant comme interface. Bon, après, à vous d'imaginer ce que ça peut donner. Allez voir sur le site, il y a des démos pour chacun des logiciels, et vous verrez un peu ce que ça peut faire. Ça coûte 80€, ça marche. Ça se porte. Quand j'ai montré ça à mes collègues en art numérique au département, ils disaient « Ah, je vais mettre ça dans un vêtement, puis faire une interface ». Ensuite, ils imaginaient un dispositif interactif avec ça. Bon, je ne sais pas ce que ça peut susciter chez vous, mais c'est un des jolis gadgets qu'on a eu ces derniers temps. À ce prix-là, c'est bien. Celui de l'iPad, on a déjà des trésors incroyables de ressources à se mettre sous les mains. À deux commentaires près, quand même. Et c'est pour ça que j'utilise des manettes. Ces interfaces sans contact physique ou une surface à deux dimensions comme ça, c'est joli de regarder l'écran, de toucher des potentiomètres et de tourner des boutons virtuels comme ça, mais c'est un gros inconvénient en concert. Si on n'a pas l'œil sur l'objet, et vu la quantité de potentiomètres que j'ai là, si je me trompe entre l'oscillateur de... comme si ou le traitement comme ça, je peux louper complètement mon effet. Il suffit que par inadvertance, je déplace mon doigt un peu en diagonale plutôt que verticalement, je change d'outil sans m'en rendre compte, etc. Alors que quand il y a des objets physiques sous les doigts, on sent quand on est encore dessus, on a, en l'absence du regard, une rétroaction tactile en fait, qui informe la main et qui aide à informer l'oreille aussi. Donc les boutons physiques ont leur intérêt. Donc tout ça, c'est une question de cohérence avec le projet, avec le dispositif et ce qu'on lui fait faire. Les machins virtuels à X dimensions sont super utiles, mais il faut les programmer de la bonne manière pour que ça rende service. Autrement, on est dans une série de gesticulations qui sont des bons gadgets, mais qui ne sont pas des outils de création. Ce qui transforme le gadget en outil de création, c'est l'adéquation avec la tâche à fournir. Et je vous rappelle que l'humanité s'est développée avec ses mains. Ce qui a fait le cerveau humain, c'est les mains. Les singes qui se sont mis debout, qui ont commencé à manipuler des cailloux et des petits objets, ont fait se développer le cerveau. Et c'est la main qui a fait l'homme, vraiment. Donc perdre ses mains, c'est perdre son contact sensible et fin avec les choses. On a une finesse de réseau de neurones, de réseau de nerfs au bout des doigts, qui est incomparable. C'est la partie du corps qui est la plus innervée. Donc, c'est pas grave. Moi, je l'utilise. On va voir si ça vous rend service. Il y a d'autres choses qui vous intéressent. Oui. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, oui.
C'est assez étrange.
Ouais.
Il y a ce truc du corps. Et
ouais.
Il y a plein de trucs. Et vous travaillez quand même dessus.
Oui.
Et du coup, enfin, je ne sais pas si vous voulez. Enfin, si vous voulez me dire sur ma
grave. Ben, effectivement, c'est là-dessus que je travaille. L'interaction fine entre le geste, le corps, l'intention artistique. C'est même pas forcément musical. C'est un être humain qui interagit avec des outils. Après, l'outil, il fait ce qu'on veut. C'est de ça dont j'essayais de vous parler, effectivement. Par exemple, avec cet appareil-là, vous avez vu comment le moindre geste microscopique est démultiplié terriblement. Et ça a une résolution millimétrique, cette chose-là, sur une surface de 1 mètre par 1 mètre, à peu près. Du coup, ça soulève cette question-là, qui génère une montagne de son. Donc, pour en faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du gadget, ça demande une réflexion sur le corps. C'est facile de faire un machin qui fait n'importe quoi. Ce qui est difficile, c'est d'en faire une création qui est satisfaisante artistiquement. Donc, c'est là-dessus que mon effort porte, effectivement, sur l'ergonomie des choses. Comment l'outil est en adéquation avec l'idée et comment le contrôle de l'outil est en adéquation avec l'idée et avec le corps humain qui le manipule. Pour ça, il faut programmer des interfaces, essayer différentes choses en fonction de la tâche qu'on veut lui confier. J'ai peut-être le tort de vous montrer le résultat de 20 ans de travail, du coup ça a l'air d'une grosse usine de bagages. J'aurais peut-être dû commencer avec des objets très très simples. Si je vous faisais une formation sur Max MSP, par exemple, je recommencerais à zéro. Une petite fenêtre chiffre, un petit processus tout bête, et que vous recommenciez la logique à son point de départ. Mais si ça vous intéresse comme démarche, il faut choisir des effets, des outils qui correspondent avec votre intention et essayer après d'apprendre à les contrôler. Par exemple, un filtre qu'on règle avec en tapant du code, ça ne marche pas. Parce qu'on perd la finesse de l'interaction geste-oreille quand on le fait comme ça. Quand on tape du code, c'est abstrait. Quand on règle à l'oreille un filtre, en tournant un bouton, en déplaçant un curseur, en bougeant le pouce sur une interface comme celle-là, c'est pas l'œil qui travaille, c'est le geste corporel en adéquation avec ce qu'il perçoit. Et on va accorder très finement le filtre dans ces conditions-là sur juste la couleur qu'il nous faut à ce moment-là. Et on peut
peut le faire de mille façons en fonction de l'outil qu'on a sous le coude. Même chose pour un réglage d'écho, là je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire aussi. Un des problèmes de l'écho, c'est que souvent les échos sont à contresens rythmique par rapport à la rythmique du morceau. Et Pink Floyd, avec Dark Side of the Moon, avait très bien montré ça. En accordant le rythme des échos avec la rythmique du morceau, on obtient beaucoup plus de cohérence musicale et moins d'interférences négatives et plus de mise en phase des choses l'une avec l'autre. Du coup, l'écho, au lieu de brouiller le son, il venait améliorer la qualité sonore. Mais pour faire ça, il faut avoir un dispositif d'écho sensible à la pulsation. Donc, il faut trouver un moyen. J'ai un bouton quelque part qui sert à ça. Je tape en rythme avec le morceau. Et comme ça, mon écho est rythmiquement cohérent par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, il y a plein de petits dispositifs très, très simples comme ça qui servent à faire en temps réel, à adapter un outil qui est entièrement ouvert et programmable. C'est une page blanche au départ, ce truc-là. On a très, très peu de contraintes à une intention artistique. Vous pouvez, de la même façon, avec la même facilité, contrôler des processus visuels. Je ne l'ai pas fait ici, mais la bibliothèque Jitter de Max MSP, la bibliothèque GEM de Pure Data vous permettent de contrôler des flux de caméra, des images, des retraitements de couleurs avec la même aisance, la même fluidité que ce que j'ai fait avec le son. Et si vous voulez le faire avec des interfaces gestuelles, ça s'intègre de la même façon. Donc là, ça peut être bon pour vos projets aussi. Est-ce que ça répond un petit peu à ce que vous vouliez? Oui. Donc cherchez, imaginez ce que vous avez envie de voir comme résultat, et après, ou dans quelle ambiance, dans quel climat vous avez envie de baigner, essayez de trouver les outils pour faire ça. C'est ça qui est, à mon avis, la clé. Ah oui, dans ça ici, je vous l'ai programmé avec un logiciel qui s'appelle Lemur. Pour iPad, ça marche pour iPhone aussi. Et qui est une télécommande OSC ou MIDI pour n'importe quoi dans l'ordinateur. Vous pouvez avec ça faire des passerelles pour commander des processing dans Pro Tools, par exemple.
Tu veux dire qu'on peut se programmer le graphisme de ça directement?
Directement, c'est moi qui l'ai fait. On dit, je veux un potentiomètre comme ci qui va de telle valeur à telle valeur. Je veux qu'il soit jaune, je veux qu'il soit à tel endroit.
Oui, ça, c'est très difficile, enfin, c'est pour programmer sur le téléphone.
Ah, c'est très facile avec ça.
C'est l'ancien Lemur.
C'est l'ancien Lemur, oui. Par exemple, ici, j'ai programmé des joysticks à ressort. Et je viens contrôler des sons, par exemple, de la panoramique et de la transposition. Et c'est rigolo de mettre un ressort dessus parce que si ça fait un pitch bend, par exemple, une inflexion de la hauteur, d'avoir le son qui fait. Un geste assez organique. Et avec juste un petit poussé comme ça, je fais trembler le son d'une manière riche et, ou le balader d'une panoramique élastique. Ta, 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 ta. Donc on trouve des comportements qui vont avec ce qu'on est en train de faire. On va chercher l'objet dans la liste des objets, on le met là, puis on lui dit contrôle ça. Sauf que je ne sais pas pourquoi il. Le réseau fonctionne pas, j'arrivais pas à les mettre en réseau tous les deux. C'est ça qui bloque. Oui, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marchait à ma chambre d'hôtel, ça marche chez moi, je suis un peu frustré, mais bon.
Et les murs, il est gratuit ou il faut
le Il frustrer? Coûte 8 euros ou 10 euros, un truc comme ça. C'est une somme, économiser un paquet de cigarettes, puis vous achetez les murs.
Merci beaucoup, Martin. T'inquiète pas, c'est pas une usine à gaz. Moi, je trouve très très bien qu'on ait eu un panorama historique ce matin, et des traitements, des modes interactifs de jeu, tout ça va certainement prendre sa place, soit dans des pédales d'effet, des logiciels gratuits, ou Pro Tools qu'on a ici, Max, Pure Data, Usine, etc.
Oh oui, tout ça est quand même
adaptable et accessible immédiatement, et on prendra le relais nous aussi par rapport. C'était très très bien d'avoir une vue un peu complète. Alexandre, Jean-Michel et moi, on va être occupés à d'autres activités. On va vous laisser vous organiser pour votre revoir après la pause. Je pense que ça va être un peu difficile de faire ça individuellement. Peut-être que arrangez-vous pour savoir si vous pouvez le faire collectivement.
La place qui reste, elle est pour vous. Moi, en quoi je peux vous être utile? Vous voyez à peu près où je suis. Comment je peux vous être utile? Est-ce que je peux vous faire des suggestions technologiques? Est-ce que je peux vous aider à réfléchir à un problème? La discussion sur le corps qu'on vient d'avoir, c'est une façon de réfléchir à un problème. Est-ce qu'il y a des bouquins que je peux vous conseiller? De l'autre côté, tout est ouvert. J'ai pas d'heure ce soir.
Je pars demain.
Je pars demain matin. Donc je suis pas pressé. Vous avez le temps de prendre une vraie pause, peut-être.
Mais là, j'ai un peu quand même.
Je suis pas venu pour. Je suis pas venu pour faire la sieste. Hein.
Je souhaite faire une pause.
Je veux bien faire une petite pause, mais après, je vais vous rendre service. C'est le but de ma venue demain. L'année dernière, ça avait été très sympa. Après mon passage, les projets se sont bien précisés au niveau des interactivités, donc oui. ça avait été utile. Là, vous êtes très en amont de vos projets encore. Je comprends que si ça soit flou, mais on peut discuter.
Non, mais comme je le dis, c'est vrai que tous les sujets sont vachement intéressants en termes de réflexion, de travail qui a déjà été fait depuis de nombreuses années, et puis le travail de mettre en forme. Alors peut-être qu'il n'y a pas des points de détail technologiques encore à faire là, mais des orientations sur des lectures, sur des... Ça va être très bien. Ou comment aborder la mise en forme aussi, c'est intéressant. Merci beaucoup.
Ça va être possible. Merci, Roger.